Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 19e épisode.
Aujourd'hui, près des trois quarts des femmes travaillent dans le tertiaire et notamment dans ce dédale de bureaux qu'est l'Europe. C'est le grand secteur d'emploi pour tous et surtout pour les femmes. Elles y ont été préparées par les services et la plupart des emplois qu'elles exercent sont marqués, d'ailleurs, par la persistance d'un caractère domestique et féminin, place du corps et des apparences, rôle des qualités dites féminines, au premier rang desquelles le dévouement et le sourire. Du moins, c'était le cas jusque dans les années 1980-1990. Depuis, la révolution informatique a changé la donne et modifié la demande. Le travail est plus technique, plus solitaire, plus masculin. Parcourons l'éventail très large des métiers tertiaires, ceux qu'on dit justement bien pour une femme. D'abord les employés. Les femmes ont été depuis très longtemps employées de commerce dans les boutiques, avec ou en dehors de la famille, ou encore comme serveuses dans les restaurants et les auberges, non sans suspicion de prostitution dans ce cas. La grande nouveauté au XIXe siècle, ce furent les grands magasins. Au départ, du reste, les employés étaient des hommes. Sous le Second Empire, ils firent même grève contre l'emploi des femmes qu'ils jugeaient dévalorisant. Alors ils devinrent chefs de rayon, encadrant les femmes qui étaient leurs subordonnées. Les règlements étaient sévères. Les jeunes femmes devaient être célibataires, disciplinées, ne jamais s'asseoir pendant les longues journées de présence, jusqu'à la loi des sièges au début du XXe siècle qui les y autorisait. Les salaires étaient médiocres et certains directeurs conseillaient même aux jeunes recrues de prendre un protecteur. Pourtant, l'attrait d'un métier propre dans un local chauffé, la séduction du luxe qu'a décrit Zola dans « Au bonheur des dames » faisait qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'il fallait souvent être recommandé pour être retenu. Rapidement, la profession se féminise et s'organise. En 1936, au moment du Front populaire, les femmes devenues majoritaires occupent les grands magasins. Elles y couchent même. Et c'est évidemment le prétexte à plaisanteries plus ou moins grillardes. Aujourd'hui, la caissière de supermarché figure un des emplois féminins type. Les employées de bureau ont été plus tardives. Au XIXe siècle, les employées de bureau étaient des hommes, eux aussi. Copistes, comptables, secrétaires, étaient férus de leur instruction et jaloux de leurs prérogatives. Balzac, Montpassant, Feydeau ont décrit ces ronds cuir et leurs prétentions. Ils firent d'ailleurs grise mine à l'entrée des femmes, surtout dans les ministères et les organismes publics. Dans les administrations de la Nièvre, par exemple, les employés de l'administration préfectorale refusèrent jusqu'en 1930 l'introduction de machines à écrire de peur de devoir admettre des dames dactylographes, à moins que ce ne soit l'inverse. En effet, mécanisation et féminisation marchaient de pair. Les femmes passaient du clavier du piano à celui de la Remington et on vantait leurs doigts de fée. « Vous ne pouvez plus doter vos filles. Envoyez-les à l'école Pigier », pouvait-on lire vers 1900 sur des affiches publicitaires. Et le message passait très bien. Auprès d'une petite et moyenne bourgeoisie paupérisée, et qui cherchaient des emplois convenables et propres pour leurs filles, surtout après la Première Guerre mondiale. Le service des postes se prêtait à un tel travail. À la campagne, on confiait des bureaux à des dames, veuves d'officiers ou de fonctionnaires. On les appelait les receveuses pot-au-feu, et elles timbraient les lettres en faisant leur tricot. En ville, les demoiselles des postes faisaient merveille de l'autre côté du comptoir, qui les protégeait de tout contact avec le public. On les employa d'ailleurs systématiquement pour le téléphone. et Proust à chanter le charme de leur voix. Les hommes ne firent pas obstacle à leur emploi parce qu'ils obtinrent des reclassements avantageux, selon un processus qui s'est souvent produit et qui montre que les femmes n'étaient pas nécessairement concurrentielles des hommes. Le soin du corps malade. Jusque-là, confié aux religieuses des hôpitaux et des hospices. C'est la guerre de Crimée, au milieu des années 1850, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, qui a changé la donne. Et en Grande-Bretagne, la Britannique Florence Nightingale organise un service infirmier pour les armées, lesquelles armées en Crimée était très éprouvée par les combats et les fièvres. Florence Nightingale s'adresse aux filles de bonne famille. Le recrutement et la discipline sont sévères. Et c'est ce qu'on appelle le système du nursing à l'anglaise, qui fait appel à la classe moyenne et repose sur la qualification et des salaires acceptables pour les infirmières. Ce n'est pas la voie suivie en France. Dans les années 1880, le docteur Bourneville, qui était un radical, entreprend la laïcisation des hôpitaux parisiens. Et lui, il opte pour le modèle des filles de salle, peu qualifiées, auxiliaires des médecins. On ne leur demande pas un savoir médical, on leur demande simplement de faire le ménage, de faire ce que les médecins leur commandent. Elles sont ces jeunes femmes mal payées, jeunes, la plupart du temps célibataires, et d'ailleurs astreintes au logement, sur place dans les hôpitaux et surveillées. Autrement dit, le modèle de la religieuse pèse sur elles. De nombreuses Bretonnes s'embauchèrent, préférant le service domestique à l'hôpital, plutôt que dans les familles bourgeoises où elles étaient bonnes. Par la suite, se développa un enseignement infirmier libre, d'abord dans des écoles privées, notamment sous l'impulsion de protestantes qui s'inspiraient de Florence Nightingale d'ailleurs. Par exemple, l'école infirmière de Bordeaux qu'a décrit Evelyne Diebold. Alors là, il fallait obtenir une formation et des diplômes, et c'était la clé de qualifications reconnues et de meilleurs salaires. Passer du service domestique à un métier véritable, alliant connaissances médicales et savoir du corps, ça a été tout l'enjeu de l'histoire des infirmières. Et cela pèse encore sur la condition des infirmières aujourd'hui, avec d'ailleurs la distinction infirmière et fille de salle. Je voudrais ici rendre hommage à l'École supérieure des soins infirmiers de Lyon et à Marie-Françoise Collière qui a tant fait pour donner des qualifications reconnues aux infirmières des hôpitaux. Quant à devenir médecin, ce fut une autre affaire. Les hommes résistaient à l'entrée des femmes. Les premières étudiantes furent des Russes et des Polonaises, juives pour la plupart, qui avaient commencé leurs études dans les universités de l'Europe de l'Est. Chassées par les pogroms de la fin du XIXe siècle, elles voulaient poursuivre leurs études à Londres, à Zurich, à Paris. Souvent, elles choisirent la gynécologie. Elles étaient quelques centaines en France avant 1914. Exemple, la doctoresse Kremer-Bach, ou la doctoresse Madeleine Pelletier, qui d'ailleurs tenait beaucoup à ce qu'on l'appelle Madame la doctoresse. Elle fut, elle, la première femme à passer le concours de l'internat de psychiatrie. Elle s'habillait en homme et fumait le cigare. Elle était favorable à la contraception et à l'avortement. À une époque, ce n'était pas autorisé. Elle fut d'ailleurs poursuivie entre les deux guerres et internée en 1938 pour avoir pratiqué des avortements dans un asile psychiatrique où elle mourut en 1939. Sort tragique d'une femme pionnière. Toutes les femmes médecins n'eurent heureusement pas ce sort tragique. La profession est aujourd'hui largement féminisée, même dans ces bastions jadis prestigieux et masculins, comme la chirurgie, par exemple. Eh bien, on pourrait raconter l'histoire parallèle des professions du droit. Il fallut une loi pour autoriser Jeanne Chauvin, qui était docteur en droit, à plaider en 1898, tant l'exercice de la parole publique du métier d'avocat paraissait impossible, voire inadmissible pour une femme. Il fallut une autre loi en 1948, donc à la Libération, pour que la magistrature soit ouverte aux femmes. Aujourd'hui, les femmes y représentent près de la moitié des effectifs. Eh bien, on pourrait en dire presque autant, avec moins de difficultés tout de même, des professions de l'enseignement, dont Rebecca Rogers a raconté les mutations depuis deux siècles. Aujourd'hui, les femmes représentent 98% des assistantes maternelles, 78% des institutrices de l'école primaire, 56% du secondaire et 34% du supérieur, avec tout de même seulement 16% de femmes professeurs dans les universités. Donc, c'est très différent selon les niveaux. La féminisation est un processus complexe qui tient compte de l'âge des enfants et aussi de la conception qu'on se fait de leur apprentissage. Dès qu'il s'agit d'instruction, au début du moins, un homme convient mieux. L'instituteur, on l'a oublié, fut d'abord un homme. Ce qu'on appelait les hussards noirs de la République étaient des hommes. Pourtant, la loi Ferry, en instaurant l'obligation scolaire pour les deux sexes, mais dans des écoles si possible distinctes, ouvrit largement le recrutement féminin. Il fallait des femmes pour les filles et pour les petits. Il y eut alors des écoles normales d'institutrices et ce métier devint pour les filles de la petite bourgeoisie et des classes populaires, rurales et ouvrières, une figure d'identité, une véritable ambition. Pourtant, la condition d'institutrice est dure. Léon Frappier a donné un portrait assez misérabiliste de l'institutrice de province. Souvent célibataire, moins payée que les hommes, elle est nommée dans des postes perdus, en but à la méfiance, affrontée aux soupçons, à la solitude, surtout au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Dans certaines régions, comme la Bretagne, on ne pardonnait pas aux femmes d'être contre les prêtres. Il n'empêche, c'est un milieu relativement égalitaire que Jacques et Mona Ozouf ont décrit dans La République des instituteurs. C'est la première profession de la fonction publique où, en 1920, la loi oblige à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les couples d'instituteurs sont d'ailleurs de plus en plus fréquents, un peu le modèle du couple républicain. Les institutrices, d'ailleurs, sont depuis longtemps des femmes engagées pour l'éducation des filles, pour le socialisme, pour le syndicalisme, voire pour la révolution, comme Louise Michel, qui fut d'abord institutrice et s'occupa de l'instruction des filles sous la Commune. Les institutrices ont même été plus engagées que les femmes professeurs. On peut même dire d'elles qu'elles furent les premières intellectuelles. Pourquoi ? Parce que les professeurs du second degré étaient au départ moins nombreuses, plus individualistes, plus solitaires. Elles étaient affrontées au mépris des hommes qui les considéraient comme des intruses. On les appelait des cervelines. On ne les épousait jamais. Leurs grandes écoles, comme Sèvres ou Fontenay, ont beau avoir des directrices prestigieuses, elles n'ont pas la même réputation que la rue d'Ulm. Elles passent la plupart du temps des agrégations séparées et moins cotées, sauf en philosophie, où Simone de Beauvoir, en 1924, devance Jean-Paul Sartre. Le lycée est leur seul débouché. Or, les lycées de jeunes filles ressemblent un peu à des couvents laïcs, austères et gris. La mixité ne s'y est développée que dans les années 1970. Et la vie des jeunes professeurs n'est pas bien gaie. Marguerite Aron, Jeanne Galzy ont laissé des souvenirs un peu mélancoliques. À l'université, les femmes restent des indésirables, comme on dit, surtout à Paris. La Sorbonne refuse, dans les années 1930, d'élire la germaniste Geneviève Bianchis, meilleure pourtant que son concurrent, sous prétexte que la voix d'une femme ne saurait dominer un amphithéâtre d'étudiants. La première femme nommée en Sorbonne fut Marie-Jeanne Durie en 1947. Après la guerre, la situation change radicalement et l'enseignement est à présent une profession largement féminisée, celle dont on dit qu'elle est bien pour une femme, ce qui n'est pas nécessairement bon signe. Une relative parité sexuelle est une garantie d'égalité. Ainsi, les frontières sexuelles des métiers se déplacent dans un secteur tertiaire en expansion qui dessine le territoire des emplois d'aujourd'hui. Le fait que les femmes y soient présentes montre leur progrès dans la conquête des savoirs. Elles sont loin pourtant d'y être égales dans la hiérarchie des responsabilités et des pouvoirs, y compris dans la fonction publique. De ces limites, nous parlerons demain et nous évoquerons aussi d'autres professions, celles de comédienne et celles de danseuse.
Michel Perrault, réalisation Pierrette Perronneau.